temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Enseignant, érudit en sciences religieuses, critique d'art et traducteur, cet Américain du Texas a même fait de Lionel Groulx le sujet de sa thèse de doctorat. Passionné par les arts, il présente des ateliers dialogiques portant sur des œuvres picturales ou musicales et qui reposent essentiellement sur la créativité. Alanis Omonsawin, l'une des cinéastes les plus distinguées du Canada, a réalisé d'ailleurs un documentaire sur lui. Ses méthodes suscitent beaucoup d'intérêt et ne laissent personne indifférent. Avec nous, un grand plaisir et un privilège que d'accueillir le professeur Norman Cornett. Bonjour à vous.
Bonjour, Monsieur Dubois.
Vous avez passé une bonne semaine?
Tout à fait.
Tout à fait. Et de toute façon, on sent que l'hiver est derrière nous, les fleurs vont se mettre à ressortir, ça sent le printemps, ça nous permet d'être peut-être probablement un peu plus joyeux, n'est-ce pas?
Non, mais tous les espoirs nous sont permis au printemps, n'est-ce pas?
Qui êtes-vous essentiellement? Parce que, après l'entrevue de la semaine dernière, des gens nous ont dit « Ah, curieux personnage, personnage intéressant, pour le moins original ». Si on devait définir le professeur Norman Cornett, que dirait-on?
C'est vrai que je suis un curieux. D'ailleurs, c'est la curiosité qui est la force motrice de l'éducation. Donc, je m'intéresse à tellement de champs, de disciplines, de sujets. Je ne suis jamais rassasié, Monsieur Dubois. Je veux toujours apprendre plus. C'est la motivation qui m'anime.
Et vous vous promenez à travers le monde. Je disais la semaine dernière que le monde était devenu votre classe. C'est à peine exagéré.
Oui, en fait, la citation est de moi, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Et c'est le cas. Je crois qu'il faut s'ouvrir au monde. Donc, dans ce sens-là, Monsieur Dubois, c'est tout à fait normal, voire naturel, que le monde devient ma salle de classe. C'est cet esprit d'ouverture qui est la plaque tournante de l'éducation. Si on peut communiquer l'ouverture, qu'on soit toujours prêt et curieux d'apprendre, eh bien, c'est mission accomplie comme éducateur.
Et vous-même, vous êtes un bel exemple de cela, puisque vous êtes texan, donc d'origine américaine. Vous avez appris le français à Berkeley, je crois?
À l'Université de Californie à Berkeley, dont je suis ancien.
Et donc, vous étiez là fort probablement à l'époque où ça brassait un peu, guerre du Vietnam et tout le reste.
Oui, tout à fait. Et Ronald Reagan était le gouverneur. D'ailleurs, sur mon diplôme, il a écrit son nom, puisque le PDG de l'Université de Californie, c'est le gouverneur de l'État de la Californie. Et mine de rien, Monsieur Dubois, celui qui m'a remis en main propre mon diplôme, l'homme signé par Ronald Reagan, c'était nul autre que le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren, qui était lui, autrefois, gouverneur de la Californie.
Est-ce le même Warren qui a institué la fameuse enquête
tout à fait.
La mort de Kennedy?
Oui, et qui a enclenché la fin de la ségrégation avec ce jugement Brown versus Topeka Board of Education.
Vous avez connu des années assez extraordinaires au plan de la mouvance des idées.
Et alors que j'ai gagné mes études dans les parcs nationaux, j'y allais chaque été pour ramasser de l'argent. Quoi il eût non, j'ai rencontré Robert McNamara, secrétaire de la Défense
sous Kennedy
et Johnson.
Exact.
J'ai rencontré Lady Bird Johnson, l'épouse de LBJ, et ça, je m'en souviendrai toujours. Le jeune élu du Wyoming du nom de Dick Cheney.
Oh là là! Oui, ça, c'est un nom qu'on n'oublie pas et qui a connu ses années de gloire sous Reagan, n'est-ce pas? Qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur ses mémoires.
Mais Dick Cheney, évidemment, le vice-président de George W. Bush, qui est le sujet d'un film qui fait date maintenant. Vice, comme vice-président, avec Christian Bale, qui l'interprète, à la merveille, d'ailleurs. Donc, vous avez raison. Dans ces années, fin des années 60, début des années 70, tous les espoirs étaient permis. Et c'est pour... Voici ma vision de l'éducation, Monsieur Dubois. L'éducation, quand c'est bien fait, ça nous ouvre tous les horizons. Pour moi, tout était possible. Parce que je vivais ces possibilités. Il n'y avait pas de limite. Il y avait des visions, il y avait des rêves, il y avait certes des idéaux, et on les réalisait, même au point d'aller dans les rues, de manifester, de protester contre l'implication des États-Unis au Vietnam, qui a fait en sorte, et ma génération est celle qui a chassé Richard Nixon, également de la Californie. C'est nous qui avons chassé le président des États-Unis de la Maison Blanche. Or, ça, c'est une leçon dans la vie qu'on n'oublie pas.
Une leçon qu'on n'oublie pas, nous disait le professeur Norman Cornett, juste avant d'entendre ce clair de lune de Claude Debussy, enregistré le 11 septembre 2014 à la cathédrale Holy Trinity de Québec par Anne-Marie Dubois pour son CD Paix et Sérénité. Ça m'amène, parce que vous disiez une leçon qu'on n'oublie pas, le rapport entre la musique et la peinture. Dans le cas de Debussy, on pourrait même se poser la question, un impressionniste ou un symboliste?
Mais dans un premier temps, et je suis très content que vous soulevez cette question, monsieur Dubois, parce que je mène des expériences dans ce phénomène neurologique qui s'appelle la synesthésie. C'est-à-dire, il y a un tout petit pourcentage de la population qui ont un sens aigu de la synesthésie, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils entendent un son, elle voit des couleurs, et chaque fois qu'il ou elle voit des couleurs, ils entendent des sons. Eh bien, moi, de façon plus générale, j'explore lors des ateliers dialogiques les associations que font des gens, des participants. Quand vous voyez cette toile, qu'est-ce que vous entendez? Et quand vous entendez cette musique, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je mène, et ça depuis des années...
Et quel est le résultat préliminaire?
C'est absolument fascinant, parce que ça ouvre toute la dimension du subconscient. Et ça explique pourquoi, Monsieur Dubois, que je collabore également avec des psychiatres et avec des psychanalystes. Mais pour revenir plus précisément à Claude Debussy, dans un premier temps, il faut se remettre à la fin du 19e siècle. Qui sont les peintres qui changent le paysage pictural? Ce sont les impressionnistes. À toute fin pratique, Debussy, Claude Debussy, est un impressionniste en musique. Et c'est d'autant plus intéressant que lui, clair de lune, quand je parlais de nous, les êtres humains, les communs des mortels, au contraire de Dieu, on ne crée pas ex nihilo, on crée toujours en dialogue. Pourquoi est-ce que cette composition clair de lune, je la trouve tellement émouvant? Mais c'est pour une raison bien pratique. C'est que Claude Debussy, à l'époque, fin du 19e siècle...
Oui, ça a été écrit en 1890.
La musique allemande, spécifiquement celle de Wagner, règne en roi et maître. Or, Claude Debussy, dans son enfance, il a vécu, n'est-ce pas, la guerre franco-prusse. Et l'ironie du sort, à son décès en 1918, il entend les canons prusses qui bombardent Paris. Mais Claude Debussy tenait à articuler une esthétique musicale complètement française. Ce qui explique pourquoi Ravel avait puisé dans les racines françaises chez Couperin. Donc tout cela, et quand on parle de Debussy et son rapport avec l'art pictural, avec la peinture et spécifiquement l'impressionnisme, qu'est-ce qui le fait saillant des compositions de Claude Debussy? Eh bien, c'est le chromatisme.
Voilà.
Donc, son dialogue avec ses collègues, ses contemporains, les peintres impressionnistes français.
La Anne-Marie Dubois, que nous avons entendue jouer le clair de lune, disait que lorsqu'elle entend les enchaînements harmoniques de clair de lune, ça lui rappelle les coups de pinceau francs et égaux des peintres impressionnistes, ce qui vient un peu conforter ce que vous venez de nous dire. On va enchaîner avec une chanson d'un autre Américain, mais d'un autre Américain parlant français et qui se bat depuis des années pour le fait français, des Louisianiens. Il s'agit de Zachary Richard, Dans mon jardin.
Didi, ok, tu peux envoyer la musique. Un peu d'amour.
Je vais dans mon jardin, je vais voir mon figuier, voir si les fruits sont mûrs. Mon jardin est joli, mon jardin est fleuri. J'y vais à tous les jours. Un peu de pluie, un peu de soleil. Les fleurs, un peu d'amour, un petit sourire pour faire fleurir nos cœurs, pour faire fleurir nos cœurs. Venez voir mon jardin, venez voir mon figuier, voir si les fruits sont mûrs. Venez prendre ma main, venez faire un petit tour. Je t'aime dans mon jardin. Un peu de pluie, un peu de soleil pour faire pousser les fleurs. Un peu d'amour, un petit sourire.
On oublie qu'un très grand nombre d'Américains sont issus de ces exportés, ces expatriés, et qui se sont retrouvés en Louisiane, ces expatriés de l'Acadie. C'est un citoyen qui croit vraiment à la cause qu'il défend. C'est un état quand même particulier que de se retrouver à défendre la culture française aux États-Unis.
Oui, Zachary Richard fait partie de ce mouvement qu'on appelle les racines, roots. C'est-à-dire, dans les années 70, il y avait un grand mouvement chez les Américains, peu importe leur origine, de redécouvrir leurs racines. Comme une quête identitaire, Monsieur Dubois. Et je pense d'ailleurs aux Afro-Américains, il y avait toute cette série à la télévision qui a changé oui, la conscience américaine et spécifiquement des Noirs américains, Roots.
Voilà.
Et tout cela, donc, et pour moi, ça compte d'autant plus en tant qu'historien qui a fait le doctorat sur l'histoire du passage du Canada français au Québec, à travers le prisme de Lionel Groulx, qui était le plus grand historien francophone entre les deux guerres mondiales au Canada, eh bien, moi, je voulais comprendre la présence francophone sur le continent nord-américain. Ce qui fait qu'on a ce que moi j'appelle une hybridité francophone personnalisée chez Zachary Richard.
On peut dire de vous que vous êtes un francophile.
Oui, 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 ah oui. Et pas à peu près.
Et pourtant, le fait français est toujours en survivance, même ici au Québec. On essaie toujours de défendre cette langue parce que nous sommes entourés d'un océan d'anglophones et que ce n'est toujours pas nécessairement acquis que de dire que nous pourrons toujours vivre en français. Oh. Jean-Pierre Ferland a écrit une chanson au début des années 70 que nous allons entendre dans quelques instants, qui a pour titre « God is an American », parce qu'on s'opposait à l'époque un peu à l'américanisation du Québec, du vivre ensemble en Amérique. On ne voulait surtout pas devenir comme les Américains sans porter préjudice aux Américains eux-mêmes. Est-ce que vous croyez que cette situation a changé depuis?
Tout a changé à cause de l'Internet, à cause des réseaux sociaux. Donc, il faut voir dans un contexte beaucoup plus large. Mais ironiquement, ça peut bien servir les francophones de l'Amérique du Nord, puisqu'ils peuvent beaucoup plus facilement dialoguer les uns avec les autres. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut insister sur les parallèles entre l'histoire du Canada français, Québec, avec l'histoire américaine. Ce n'est pas pour rien qu'un des livres les plus marquant de la Révolution tranquille, et c'est pas une expression que moi j'emploie, donc j'en suis très conscient en tant qu'Américain né au Texas qui a vécu la ségrégation, mais on se souvient tous des nègres blancs d'Amérique.
De Vallière.
Oui, exactement. Donc, pourquoi est-ce que Vallière a écrit cela? Parce qu'il lisait Dr. Martin Luther King Jr. et cette lettre qu'il avait publiée d'une prison à Birmingham. Mm-hmm. Et voici la réplique des Québécois dans le livre de Vallière.
C'est facile de choisir avec vos grands gueules. Vous pensez que c'est facile d'être un dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire, vous me faites.
Et puis vous faites la peine à Saint-Pierre, et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, et vous me faites la peine et tout.
God is an American, God is an American, God is an American, American, God is an American. God is a good boy.
Vous pensez que c'est facile de dormir avec vos grandes gueules? Vous pensez que c'est facile d'être ici, ailleurs et partout à la fois? Il y a des fois, je recommencerai tout ça sans Eve et sans Adam. Que des chiens, que des chats, que des champs et des bois. Et s'il faut que je vous le redise, dans votre vocabulaire, vous me faites... Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre. Et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Et vous me faites la peine et
bien Saint-Pierre, tu comprends mon jamais. Allez mon Saint-Pierre, coupe.